Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un invité exceptionnel que Franck Ferrand reçoit cet après-midi dans Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Sa Majesté le roi Siméon II de Bulgarie nous fait le grand honneur d'être dans le studio d'Au cœur de l'histoire. On peut dire que ce studio n'a jamais si bien porté son nom, car toute l'existence de ce grand acteur du siècle s'est déroulée, on peut le dire, au cœur de l'histoire. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question d'Audrey sur l'origine du mot « Amen ». Pour le moment, ce sont donc les soubresauts de l'Europe du XXe siècle que nous revivons aux côtés du roi Siméon.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux que Votre Majesté soit dans les studios même d'Europe 1 pour nous faire vivre cette histoire, votre histoire. Nous allons parler avec vous de toute cette existence, de tous ces souvenirs que vous publiez dans Un destin singulier chez Flammarion. J'aimerais peut-être rappeler à nos auditeurs d'où vous venez. Vous êtes né le 16 juin 1937 à Sofia, bien entendu. Votre nom de naissance est donc Simon Borisov. Vous êtes le fils du tsar Boris, bien sûr. Saxe-Cobourgski, c'est-à-dire puisque vous êtes de la maison de Saxe-Cobourg, avec la langue des Bulgares, cela donne Saxe-Cobourgski. Vous nous expliquerez tout ça. Vous avez été, on peut dire, un enfant roi. De 1943 à 1946, je vais expliquer dans quelles circonstances, vous avez ensuite vécu ce long exil avant de connaître cet épisode extraordinaire du retour dans votre pays. C'est le tout début de vos souvenirs et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des pages très émouvantes. Voilà comment mon ami Stéphane Bern, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, vous décrivait dans son célèbre ouvrage « Les couronnes de l'exil ». Je le cite « L'homme est mince, d'une élégance distingué et sobre. Il a le front haut, le regard vif, un collier de barbe poivre et sel donne une note balkanique à ce visage où se reflètent toutes les dynasties d'Europe. Des manières exquises qui sont l'apanage des grands, une voix mélodieuse et franche, mais qui trahit en lui le gémeau qui doute et s'interroge tandis qu'il égrène un komboloi. Rien d'impulsif pourtant, chaque mot est pesé, réfléchi, prononcé sans passion ni exaltation, avant tout, le roi donne l'image d'un prince réaliste. Il n'y a rien à retoucher à ce portrait qui a été écrit en 1999 et qui pourrait l'avoir été aujourd'hui même. Alors, racontons peut-être, expliquons que vous êtes apparenté à toutes les familles régnantes d'Europe. Vous êtes le fils du roi des Bulgares, Boris III, qui a régné de 1917 à 1943. Et par votre mère, vous êtes Savoie. Nous parlions juste avant que ne commence cette émission de la mère de François Ier, Louise de Savoie, qui est votre, qui fait partie en tout cas de votre ascendance. J'allais dire votre aïeule, pas tout à fait, mais elle fait partie de votre ascendance incontestablement. Votre grand-père était Ferdinand Ier, donc de la famille de Saxe-Cobourg, Saalfeld, il faut le préciser. Cette famille est une moyenne famille dans la noblesse européenne, a écrit Bernard Lory, mais c'est surtout par ses alliances qu'elle acquiert une importance. Vous êtes aussi apparenté donc à la couronne de France, puisque votre arrière-grand-mère était la fille du roi Louis-Philippe, du roi des Français, et votre grand-tante, arrière-grand-tante n'était autre que la reine Victoria. Donc on comprend que vous faites partie de cette Europe des rois, précisément. Au moment de la Première Guerre mondiale, il y a eu dans Sofia des mutineries et votre grand-père, Ferdinand Ier, a décidé d'abdiquer pour calmer les esprits. Il s'est exilé au château de Cobourg en Allemagne et c'est donc son fils, Boris, qui est monté sur le trône. Il avait à cette époque-là 24 ans. On peut dire que vous êtes assez différent de votre père et je vous poserai la question tout à l'heure. Vous nous expliquerez en quoi, évidemment. Il avait épousé, je l'ai dit tout à l'heure, Jeanne de Savoie. Ce sont des fêtes grandioses que celles du mariage de vos parents. Et vos parents ont eu deux enfants, votre sœur aînée qui a 4 ans de plus que vous, Marie-Louise, et puis vous, Siméon. Vous avez été éduqué, on peut dire, pour succéder à votre père, élevé dans les traditions de la monarchie européenne, avec des précepteurs, bien entendu, qui ont, et je voyais ça dans un documentaire de Nicolai Thomas, qui explique que vos précepteurs ont développé vos capacités d'épanouissement personnel, de curiosité intellectuelle, d'imagination, d'ouverture aux langues étrangères, et c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez donc acquis cette stature intellectuelle, en quelque sorte, vraiment très tôt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie est neutre jusqu'en 1941 et puis elle adhère au pacte tripartite et dès le lendemain, les troupes allemandes sont là qui défilent dans tout le pays. Dès qu'Hitler réclame un effort de guerre bulgare sur le front de l'Est, le roi Boris, de façon extrêmement habile, explique que les Bulgares étant fondamentalement russophiles, il ne peut pas exiger de son peuple une participation à la guerre contre les Russes, écrit Bernard Lory. Les Allemands veulent déporter les Juifs bulgares, il y a des résistances très importantes dans le pays et le roi va aller dans le sens de cette résistance. Certes, 50 000 Juifs de Bulgarie iront dans des camps, mais dans des camps de travail. Le 28 août 1943 meurt le tsar ou le roi Boris, Boris III. La Bulgarie le pleure. Son cercueil est exposé dans la cathédrale Alexandre Nevski de Sofia pendant une semaine et on va voir les Bulgares défiler devant la bière de votre père. Alors, cette mort a été une mort mystérieuse. Vous le dites vous-même, sire. Mon père est mort au milieu de la guerre d'une manière tout à fait inattendue, dites-vous. Les raisons de sa disparition ne sont toujours pas éclaircies. Alors est-ce que le roi Boris est mort d'une crise cardiaque ? Un soir, écrivez-vous, il appelle sa sœur Eudoxia qui revenait d'Oxydonograd. Le château d'Oxynograd est un petit château situé à Varna, en Bulgarie, et à qui il se plaignit d'une pesanteur dans la poitrine. Il mourut le samedi suivant, soit le 28 août, par une chaude journée d'été. Au moment de la mort de mon père, ajoutez-vous, nous étions à Tsarska en compagnie de nos deux nurses qui ne nous quittaient jamais. Afin de ne cacher les bulletins d'information, nos nurses nous avaient dit que la radio fonctionnait mal. Elles ne voulaient pas vous inquiéter, en quelque sorte. Chaque fois que nous parlions de lui, les yeux de la nurse se remplissaient de larmes. Nous ne comprenions pas pourquoi. Le dimanche, ma tante Doxia est arrivée de Sofia, vêtue de noir. Elle nous a annoncé la triste nouvelle. Papa n'est plus. Ce fut un terrible choc. Je ne compris pas tout de suite ce qui s'était passé. Nous sommes partis avec elle pour le palais. Nous avons retrouvé notre mère, déjà habillée de noir, elle aussi, essayant de nous sourire avec difficulté. Elle nous a pris par la main et nous a amenés dans la chapelle où son corps était exposé. Marie-Louise et moi avons embrassé son grand front froid. Puis nous sommes ressortis. À ce moment-là, vous avez 6 ans et vous êtes roi.
De Verdi par Claudio Abbado. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, sur Europe 1 pour le site de votre récit sur la jeunesse de notre invité, le roi Siméon II de Bulgarie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie et particulièrement à la jeunesse du roi Siméon II de Bulgarie qui est notre invité cet après-midi sur Europe 1.
Je poursuis donc la lecture de l'autobiographie du roi Siméon II de Bulgarie, Un destin singulier, chez Flammarion. Et voilà ce que dit le roi Siméon. Il est, à l'époque, le plus jeune roi d'Europe, bien entendu. D'ailleurs, tout le monde l'appelle le petit Siméon. C'est le Parlement qui l'a proclamé roi. Il devient le roi Siméon II, un enfant de 6 ans devenu adulte sous la pression des événements, dit Stéphane Bern. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que les gens s'adressaient à moi en employant le terme « majesté », écrit Siméon II, c'est-à-dire de la manière dont ils s'adressaient à mon père. Je compris alors que je ne le reverrai pas. Et dans le documentaire « Le destin d'être roi », Siméon II ajoute « Il faut aussi penser que je voyais ça avec l'œil d'un enfant. Les personnes autour s'adressaient à moi comme si elles s'adressaient à mon père, ce qui était un choc. Et puis, quelques mois plus tard, de voir que les officiers portaient l'initiale de mon père sur l'épaulette plutôt que celle de mon grand-père, c'est-à-dire que c'était moi qui avais remplacé mon père, et ça m'avait énormément frappé. » C'est évidemment, pour un si jeune enfant, c'est une charge considérable que de se retrouver roi. Alors il y a un conseil de régence avec 3 hommes, l'oncle de Siméon, le prince Kirill, l'ancien président du conseil Bogdan Filov et puis le ministre de la guerre Nicolas Mihailov-Mirov. Alors moins d'un an après son accession au pouvoir, on est là en septembre 1944, c'est la libération de l'Europe. Alors libération avec des guillemets en l'occurrence, puisqu'on voit les troupes soviétiques entrer en Bulgarie, installer un régime pro-soviétique, les 3 régents sont arrêtés, il va y avoir des procès, des condamnations à mort, des fusillés, certains sont exécutés, l'ensemble du gouvernement, la moitié des députés sont exécutés, il va y avoir 2500 victimes de cette nouvelle occupation soviétique. Et pourtant, la monarchie n'est pas abolie. Siméon II signe les lois qui sont proclamées par le gouvernement russe. Dimitrov, le nouveau maître de la Bulgarie, a laissé au petit Siméon la vie sauve, sans doute en souvenir de la grâce que le roi Boris lui avait autrefois accordée, écrit Stéphane Bern. La famille royale est cloîtrée dans le palais de Varna pendant 2 ans. La période comprise entre la mort de mon père et notre départ de Bulgarie reste marquée par les bombardements alliés sur Sofia, dit le roi Siméon. La ville a été en grande partie abîmée. Alors ça dure effectivement tout ça, je vous dis, pendant 2 ans. Et puis en septembre 1946, un référendum est organisé. Et on imagine dans quelles conditions il a pu être organisé, puisque le résultat parle de lui-même. En faveur de la République populaire vont se prononcer 95,4% des votants. Voilà une élection dont on imagine qu'elle a été légèrement orientée. Une semaine plus tard, la famille royale est pressée de quitter le pays. Siméon II sera donc resté sur le trône pendant 3 ans, de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans. C'est un tout petit roi qui va partir pour l'exil. Ça, c'est le sort, c'est le destin, dit Siméon dans le documentaire de Nicolas Thomas. Je n'essaie pas de dramatiser, évidemment, les circonstances étaient de plus en plus pénibles. L'exécution de mon oncle et des 125 personnes autour de nous était vraiment traumatisante. Naturellement, tous ces événements se faisaient, il faut le dire, grâce à l'appui de l'Union soviétique. Alors là, je prends les propos du roi Siméon dans ma voix, mais puisqu'il est avec nous aujourd'hui, le mieux, c'est de lui laisser la parole. Ça a été pour vous un singulier traumatisme, en quelque sorte le deuxième de votre vie après celui de la mort de votre père, sire.
Effectivement, parce qu'on voyait toutes ces disparitions et autres signes d'autorité ou qui étaient effrayants. Mais je reviens à ce que vous avez amablement dit. Je voyais ça quand même avec la perspective d'un enfant. Donc je ne peux pas dramatiser ou prétendre tirer d'autres conclusion.
On essayait de vous épargner, on essayait autour de vous d'éviter que vous ne soyez directement aux prises avec les événements politiques.
Pas vraiment, parce que les choses se rapportaient au palais, on savait ce qui se passait, nous voyions notre mère qui était tellement inquiète, les entretiens avec les nouveaux régents qui avaient été nommés par le régime, bien, c'était là aussi le fait qu'on voyait des personnes tout à fait nouvelle ou inconnue. Et donc, sans vouloir, on se rendait compte de ce qui arrivait.
Votre mère, je l'ai dit, faisait partie de la famille royale d'Italie. Vous allez donc à ce moment-là partir pour l'exil. C'est le début d'un très long exil dont nous allons, si vous voulez, parler ensemble maintenant.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie et à la jeunesse du roi Siméon II de Bulgarie qui est notre invité cet après-midi sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous revenez cet après-midi, Franck Ferrand, sur la vie de notre invité, le roi Siméon II de Bulgarie.
Avant d'évoquer cet exil, ce très long exil en compagnie du roi Siméon lui-même, j'aimerais vous demander, sire, quels sont vos plus vieux souvenirs? Est-ce que vous vous rappelez la cour de votre père, le tsar Boris?
Vous savez, la cour comme telle, chez nous c'était assez simple, n'est-ce pas, comme entourage. Mais évidemment, j'ai des souvenirs de visites de certains ministres ou des conseillers de mon père et ce genre de mouvement quotidien, si vous voulez. Mais à l'époque aussi, les enfants ne participaient pas tellement. Nous voyons notre père plus tard pendant la journée.
Vous étiez l'héritier, évidemment, du trône, mais vous laissez entendre dans vos souvenirs que votre sœur aînée avait en quelque sorte la préférence de votre père.
C'est surtout qu'elle était déjà plus grande au sens qu'elle comprenait plus. Oui. Et que peut-être, on prétend toujours que les filles sont les favorites des pères. Alors, peut-être il y avait ça aussi, mais en tout cas, elle a toujours été comme une sorte de tuteur ou de protectrice pour moi. Ce rôle a été aussi très important, je dois dire.
Est-ce que au moment où meurt votre père, vous êtes conscient de la responsabilité qui tombe sur vos épaules? Parce que, évidemment, pour un enfant, perdre son père est une chose toujours terrible, c'est un choc. Mais dans votre cas, c'est un double choc, si je puis dire, puisque le fait que votre père meure vous propulse sur le trône. Vous êtes désormais le roi Siméon II.
Vous savez, c'est curieux, mais je n'ai pas senti, ou je n'ai pas le souvenir d'avoir senti cette charge. C'était là. Le grand chagrin. Et puis, comme on était déjà élevé à... Enfin, le prince héritier doit faire ceci parce qu'il est le prince héritier, il doit faire cela parce qu'il est... C'était un conditionnement tel que j'ai continué à faire ça sans qu'il y ait des craintes dramatiques pour ma part de ce qui me tombe dessus, si je peux m'exprimer ainsi.
Alors, jusqu'à 1944, jusqu'à septembre 1944, c'est le droit fil des choses, si je puis dire. Même si, évidemment, on est quand même en circonstances de guerre, c'est très particulier. Mais alors, avec l'arrivée des Soviétiques, bien entendu, ça devient très différent. Ça a dû être très dur pour vous, ça.
Je garde le souvenir de mon premier entretien avec les nouveaux régents qui sont arrivés à notre résidence à la montagne, avant les régents exécutés. Mon oncle et les deux autres que vous avez nommés arrivaient dans une voiture tous les trois. Subitement, nous voyons une procession de trois voitures et un camion de personnes avec des mouchoirs rouges et armés. Et c'était, disons, le premier contact avec les nouveaux régents, chacun arrivant dans une voiture. Enfin, une attitude assez curieuse.
On est évidemment à la fin de cette Seconde Guerre mondiale où bascule un certain nombre de régimes. En Italie, vos grands-parents, c'est-à-dire les parents de votre mère, sont eux-mêmes déchus du trône. Ils vont devoir partir en exil. Ça sera votre cas aussi. Vous vous rappelez les circonstances de l'exil? Vous vous rappelez votre départ et comment tout ça s'est passé?
Oui, clairement. D'ailleurs, ma mère comptait aller en Égypte parce que ses parents venaient d'arriver là.
Le roi Victor Emmanuel III, en l'occurrence.
Oui. Et nous avons quitté Sofia... enfin notre maison, une gare, une station tout près qui était surveillée pour qu'il n'y ait pas de monde, un train spécial. Et le lendemain, nous sommes arrivés à Istanbul, mais à la frontière bulgare, le conducteur du train s'est refusé, le machiniste, de conduire jusqu'à la frontière turque où il y avait une locomotive turque qui nous aurait pris, parce qu'il a dit que comme mon père était cheminot, entre guillemets, parce que mon père adorait tout ce qui était chemin de fer, oui. Eh bien, lui a refusé Et alors, il a fallu demander à la machine turquiante en Bulgarie pour nous sortir du pays.
Vous aviez 9 ans alors, c'est très jeune, bien entendu, mais en même temps, vous aviez été mûri par le pouvoir et par vos responsabilités. Donc, j'imagine que vous aviez une certaine conscience de ce qui était en train de se passer. Vous pensiez que vous alliez quitter définitivement la Bulgarie ou que ce n'était qu'un exil temporaire dans votre esprit ?
Ah non, non, ça, c'était, l'impression était que c'était définitif. Et bon, sur le moment, on ne se posait pas trop de questions, n'est-ce pas ? L'étape suivante, c'était de partir en bateau en Égypte, et puis on verrait. Mais le moment même, c'était d'un adieu.
Il faut dire que l'occupation soviétique avait été très violente et que vous aviez vu disparaître autour de vous, en quelque sorte, tout l'univers qui vous était familier jusque-là. Donc, vous arrivez en Égypte. Dans quelles circonstances et comment avez-vous vécu ce début d'exil ? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, c'est la vie de votre invité Franck Ferrand qui est à l'honneur cet après-midi, Siméon II de Bulgarie.
Nous sommes donc à la fin de l'été 1946, en septembre 1946, et la famille royale de Bulgarie, donc vous, le roi Siméon II, votre mère, votre sœur, vous arrivez en exil en Égypte où se trouvent les parents de votre mère, c'est-à-dire le roi et la reine d'Italie, puisque l'Italie elle-même est devenue, vient de devenir une république. Racontez-nous cette arrivée, sire. Vous avez été frappé par le protocole que vous réserve votre propre grand-père. C'est un roi qui s'adresse à un autre roi.
Mais oui, effectivement, grand-papa a voulu que nous fassions le parcours du port où il était venu nous accueillir jusqu'à l'hôtel, en tête à tête dans la voiture. Et moi, j'étais terrifié parce que je l'avais vu une fois quand j'avais 3 ans, mais je ne me souvenais pratiquement pas. Et puis, il me parlait en italien. Et mon italien était presque nul, mais des choses que j'avais entendues de ma mère, j'ai essayé de dire quelques mots, tant et si bien que mon grand-père a félicité sa fille que je parlais l'italien. Ma mère croyait qu'il se moquait d'elle et qu'il lui faisait un reproche que je n'avais pas appris l'italien.
Parce qu'elle ne pensait pas que vous pouviez
que
vous débrouiller à ce
débrouiller.
Point. Donc ça, il y avait un côté sans doute un peu tragique dans tout ça, puisque c'était deux rois en exil qui se retrouvaient donc en Égypte. Pourquoi votre grand-père était-il en Égypte du reste ? Pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi l'Égypte ?
Ça, je ne saurais vraiment pas vous dire, nous, parce que...
Oui, vous, c'est évident, oui.
À cause de... Mais pourquoi, si c'était un accueil du roi Farouk ou une proposition, parce que l'Europe... À ce moment, était encore en ébullition, disons, et ça aurait été difficile pour eux de s'installer ailleurs en Europe.
Alors, je ne reviendrai pas sur le référendum qui, en Italie, a vu la fin de la monarchie, dont on sait maintenant, historiquement, qu'il a été complètement truqué, entre nous soit dit. Est-ce que le référendum effroyable organisé par les Soviétiques en Bulgarie, de la même façon, a été truqué ? La réponse est dans la question, mais il faut que vous nous le disiez, ça, tout de même.
Mais il y a deux facteurs. Primo, le résultat mirobolant, si vous voulez, au bout de 13 siècles d'existence du pays, et on avait toujours été une monarchie. Même sous l'Empire ottoman, c'était quand même une monarchie. Donc subitement, 95% de mes compatriotes trouvent qu'il faut changer de cap aussi radicalement, c'est déjà un peu suspect. Mais ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est que le référendum était nul, vraiment, parce qu'on était sous occupation étrangère. Il y avait les troupes soviétiques encore. Et donc, à tout effet, c'est un, pardonnez-moi le terme, un référendum bidon.
Mais bien sûr. Alors, vous êtes donc en exil à Alexandrie. Vous intégrez pour la première fois une école, si je puis dire. Vous avez déjà 10 ans et vous arrivez pour la première fois à l'école.
Oui, parce qu'avant ça, on suivait des cours particuliers. Et tout à coup, de me trouver au milieu de centaines d'enfants qui parlaient toutes sortes de langues que moi, je ne parlais pas encore, une chose et l'autre, c'était, traumatisant, c'est le mot qu'on emploie trop maintenant, mais c'était certainement bouleversant et un peu difficile pour m'adapter tout de suite.
Évidemment. Alors, cette école s'appelle le Victoria College. Or, vous, Victoria, c'est votre grand-tante. Est-ce que vos camarades d'école le savaient, ça ? Est-ce que vous...
Je ne crois pas.
Non.
Parce que l'école portait le nom, justement, de la reine Victoria, mais Et c'est amusant parce que le nom a été changé. Maintenant, l'école s'appelle Nasr, mais qui est victoire en arabe. Donc, finalement, ça n'a pas trop changé.
Oui, c'est presque le même terme qui a été masculinisé d'une certaine manière. Vous subissiez, c'est intéressant, ça, vous expliquez ça dans votre ouvrage, vous subissiez quand même quelques taquineries de la part des autres élèves.
Oui, ça, au fur et à mesure qu'ils ont entendu quelque chose par leurs parents ou quoi. Et c'est normal entre enfants. Et d'ailleurs, on dit toujours que les enfants sont méchants. Moi, je crois que les adultes sont plus méchants, mais enfin, ça, c'est autre chose.
Est-ce que vous conservez de bons souvenirs de l'Égypte ?
Oui, quand même. C'était enfin une période intéressante, jolie. Et puis, Alexandrie, surtout de l'époque, était une société extraordinairement cosmopolite.
Vous parliez vous-même de nombreuses langues, c'est ce qu'il faut dire. Vous apprenez toutes sortes de langues.
Nous les avons apprises, puis au collège, c'était drôle parce que, soi-disant, on était enfin, obligés de parler en anglais et interdiction de parler d'autres langues. Et en vérité, aux récréations et ça, on parlait tout sauf l'anglais parce qu'il y avait tellement de langues.
Oui, mais c'est assez passionnant, ça, évidemment. Ça va durer jusqu'en juillet 1951 et puis vous partez pour l'Espagne. Alors pourquoi l'Espagne, cette fois ?
Parce que ma mère cherchait de rentrer en Europe. Elle voulait, pour l'éducation de ses enfants, elle trouvait qu'il fallait revenir en Europe. Et l'Italie, à l'époque, avait dit qu'elle était bienvenue, mais que dans mon cas, c'était plus compliqué, difficile, peut-être à cause des relations avec la République populaire ou quelque chose. Et finalement, ma mère ne savait pas, se décidait pas, et c'est l'ambassadeur d'Espagne qui avait entendu, est venu un jour voir ma mère et dit « Madame, est-ce que vous avez jamais considéré l'Espagne ?» Et au fond, c'est par hasard, c'est beaucoup dire, mais c'est de cette façon que nous sommes arrivés en Espagne et puis j'y étais pratiquement toute ma vie.
Mais alors, pour vous, c'est un changement total, un de plus, si je puis dire, puisque vous parliez de cette société bigarrée cosmopolite d'Alexandrie. Là, on n'est plus du tout dans une société cosmopolite en Espagne, c'est le moins qu'on puisse dire.
Saint-Quentin était une ville qui roulait un rythme différent. Puis c'était le changement de l'école anglaise au lycée français. Et vous savez, une remarque qui m'a frappé, et depuis j'y pense toujours, c'est que l'histoire, il faudrait l'enseigner au niveau, disons, de seconde, quelque chose comme ça, comme âge, dans le système français. Parce que, comme tout petit, nous étions donc en Égypte, les Espagnols étaient des pirates et des corsaires terribles. Les Français, n'en parlons pas, de toutes sortes d'autres méfaits. J'arrive au lycée français après avoir été à l'école anglaise et subitement je découvre que Drake était une fripouille, un personnage douteux, que les accusations que les Espagnols torturaient, c'était l'inverse, c'était les corsaires britanniques. Alors je trouve que c'est un peu malsain de mettre un côté exagéré, nationaliste ou ce que vous voudrez, et il faudrait épargner ça aux enfants. C'est un exemple que j'ai subi.
Leur enseigner la relativité de l'histoire.
Oui, en fait. Oui, parce qu'à un autre âge déjà, on peut accepter ou questionner.
Il est très rare qu'un enfant ou un adolescent ait eu à se poser les questions qui étaient les vôtres, qui étaient des questions pour vous naturelles et quotidiennes, puisque vous aviez été comme ça un peu ballotté par l'histoire, il faut bien le dire. Vous aviez connu le roi Farouk
Pas en Égypte, non, figurez-vous, en Égypte. J'étais trop petit.
Eh oui.
Et donc on ne m'invitait pas aux cérémonies officielles. Et une fois, je n'avais pas pu, je crois que j'avais la coqueluche ou quelque chose. Et ce n'est pas la suite que je l'ai connu, mais ma mère avait été reçu par lui, et le fait qu'on ait eu l'asile en Égypte, ben, nous sommes restés toujours très reconnaissants.
Alors l'Espagne avait elle aussi mis fin à la monarchie dans des conditions extrêmement dures dans le premier tiers du XXe siècle. Par la suite, on sait que c'est le général Franco qui était arrivé au pouvoir, qui va restaurer d'ailleurs la monarchie, puisqu'après sa mort, c'est un roi qui lui succède, le roi qui vient d'abdiquer, Juan Carlos Ier. Vous avez rencontré, vous, le général Franco, il a dû vous recevoir avec votre mère.
Oui, ça au début, et ensuite, naturellement, ayant vécu tant d'années, je l'avais rencontré à différentes occasions.
Il vous parlait de l'histoire, il vous parlait justement de la Bulgarie, de ce qui était arrivé avec vous.
C'est qu'il appuyait, il faut le dire aussi, toutes les personnes qui étaient victimes des régimes, soviétique.
Oui.
Mais c'était quelqu'un qui avait un sens de l'histoire très profond et qui était monarchiste. Parce que beaucoup de gens négligent. Il faut dire que c'était le général le plus jeune de l'armée espagnole et qui avait été promu général par Alphonse XIII, donc pas par la République.
Oui. Et est-ce qu'il essayait d'avoir avec vous des conversations, si je puis dire, politiques, car vous commenciez à devenir un jeune adulte. Vous allez d'ailleurs devenir, vous allez avoir vos 18 ans, vous serez bientôt...
Un entretien, sans m'en parler, j'ai vu la haute politique, la façon dont il a évité que j'arrive à lui demander quelque chose, et en me donnant une leçon peut-être d'astuce ou d'habileté, et qui m'ont beaucoup impressionné.
Alors, vous étiez souverain en exil, mais vous étiez souverain néanmoins, si je puis dire. C'est-à-dire que vous n'étiez pas passé à autre chose. Vous restiez tout à fait fidèle à votre serment. Et d'ailleurs, vous allez prêter serment sur la Constitution bulgare au moment de vos 18 ans.
Oui.
Ça, c'est un moment important pour vous, j'imagine.
Oui, c'était émouvant parce qu'au fond, ça faisait partie du cycle qu'on aurait dû suivre en Bulgarie. Mais nous avons trouvé que symboliquement, c'était important pour l'esprit de nos exilés, des gens à l'étranger. Pas tellement pour me donner une importance, mais ça avait été vraiment très fortement appuyé par nos compatriotes à l'étranger et par le pays même qui nous avait offert l'asile, parce que il y a le ministre de Justice, de Défense et des Affaires étrangères qui ont assisté à cet acte.
Alors le jour de vos 18 ans, votre mère vous dit « Jusqu'à maintenant j'ai tout fait, maintenant c'est à toi ».
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Cet après-midi sur Europe 1, c'est le dernier roi des Bulgares qui vous accompagne, Franck Ferrand, cet après-midi, le roi Siméon II de Bulgarie.
Maintenant, c'est à toi, vous a dit votre mère, sire. Et c'était vous qui deviez gérer la couronne en exil. La couronne, comment dit-on, des Bulgares ou de Bulgarie, d'ailleurs?
Le titre est des Bulgares, parce que c'est comme la constitution belge, c'est pas la volonté du peuple. Mais c'était aussi, surtout, qu'il fallait gérer les biens de ma mère et le côté administratif. Parce qu'elle a dit que, 18 ans, ça suffisait, que je devais faire ça à partir de ce moment. Alors c'était une grosse responsabilité.
Vous allez bientôt être épaulé, puisque vous avez rencontré votre épouse, enfin celle qui allait devenir votre épouse en Espagne, à Madrid.
Oui, à l'âge de 22, je l'ai rencontrée.
Vous pouvez nous raconter cette rencontre?
C'est un hasard, parce qu'elle était, une fille qui était très en vue et plutôt... ou même très belle, donc il y avait beaucoup de mouvements autour d'elle. Et puis je l'ai rencontrée une fois, et elle m'a paru extraordinaire, mais je suis parti tout de suite après aux États-Unis, et je ne l'ai plus revue qu'après le retour, où je l'ai rappelé pour dire que je m'étais acheté une magnifique Chevrolet en Amérique et que je voulais lui montrer la voiture. Et au fond, c'est avec ça que ça a commencé, qu'on a commencé à nous voir.
Alors, le seul problème, c'est qu'elle était catholique et que vous, évidemment, vous étiez le roi des Bulgares, donc orthodoxe. Comment est-ce qu'on gère ça lorsqu'on est chef d'État, même en exil?
Mais on le gère très difficilement et ça a pris à peu près 2 ans pour ne pas créer de scandale ou mettre ma future femme dans l'embarras, ou sa famille, ou bon, elle était orpheline, mais enfin quand même, sa famille et aussi habitant l'Espagne, on ne voulait pas créer des difficultés au régime. Enfin bref, il a fallu 3 audiences avec le pape Jean XXIII, Saint Jean XXIII, et qui connaissait tout parce qu'il avait été nonce en Bulgarie. Et donc, une des fois, il m'a dit, mais mon fils, j'aurais dit tout de suite oui Mais comme j'occupe ce siège, et il dit, pardonne-moi le manque de modestie, je ne peux pas le faire parce que je connais l'histoire et je sais comment les choses se sont passées. Mais au bout de 3 ans de négociations et en cherchant dans toutes sortes de précédents et de cas, la situation a été résolue et nous avons pu nous marier.
C'est très intéressant cette question du mariage parce que ça montre la sagesse dont vous faites preuve, bien que jeune et amoureux. C'est-à-dire qu'un très grand nombre de souverains en exil seraient passés outre, auraient forcé les choses. Vous avez tenu à ce que tout se fasse dans les règles et sans heurter quiconque. C'est assez extraordinaire. Ça, c'est votre touche personnelle et c'est votre tempérament.
Voilà, c'est ça. Ça n'a aucun mérite. C'est simplement mon caractère.
Oui, mais enfin, c'est un caractère qui convient très bien à un monarque. Ça tombe bien. Alors, il se trouve que vous avez donc vécu cet exil pendant très longtemps, parce que là, nous allons en venir bientôt, évidemment, à votre retour en Bulgarie, car ça, c'est une chose merveilleuse, inespérée. Il y a assez peu d'exemples, finalement, dans l'histoire de l'écroulement d'un empire qui permet aux souverains de revenir sur leur terre. Mais avant cela, il faut bien que nos auditeurs aient conscience de la durée de votre exil. Ça dure comme ça pendant des décennies. Que fait un roi en exil lorsqu'il est donc loin de son pays et qu'il ne peut pas agir concrètement au pouvoir? Que fait-il? Quel était votre rôle et de quoi se composaient vos journées pendant ce très long exil?
Il y avait les études, il y avait peu à peu les affaires, la gestion, la correspondance énorme avec des Bulgares en exil, des visites des communautés. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses.
Pas seulement en Espagne, il faut bien dire. Hein, vous voyagez beaucoup.
Exactement. Nous avions, comme on appelait ça à l'époque, des colonies bulgares, n'est-ce pas, pour maintenir l'esprit, soit historique, culturel, et essayer d'aider. Ça a toujours rempli mes journées et depuis, voilà, un âge. Et puis finalement, je crois qu'on finit par rouler sa bosse un peu partout, et c'est comme ça qu'on arrive à se faire une vie, une personnalité. Ou...
Moi, je me rappelle, lorsque je lisais des articles à votre propos dans les années, au début des années 1980, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'Europe, etc., et on se disait à l'époque qu'il n'y avait évidemment aucune espèce de chance que vous revoyiez un jour la Bulgarie. Ça paraissait impensable. Et puis arrive en 1989 cet événement tout à fait inouï, dont on est en train de célébrer en ce moment même le 25e anniversaire, c'est l'effondrement du mur de Berlin. Pour vous, ça a dû être une émotion encore plus forte que pour la plupart des Européens, j'imagine.
Énorme, oui. Parce qu'évidemment, nous étions de l'autre côté du mur. Par conséquent, c'était d'autant plus émouvant et, il faut dire aussi, inattendu.
Ah oui, la chute du mur a été assez précipitée. Et tout ça est suivi quelques mois plus tard, on va dire dans les 2 à 3 ans qui suivent, de l'effondrement du régime soviétique, donc de tous ces régimes qui tenaient, de ces régimes qu'on appelait satellites à l'époque, dont le régime communiste bulgare. Et vous allez pouvoir rentrer en Bulgarie, alors un peu plus tard tout de même, car ça ne s'est pas fait si facilement non plus, il faut le dire.
Oui, puis moi j'ai temporisé, je voulais une fois de plus ne pas bousculer ou sembler précipiter. Et donc, ma sœur est allée comme premier membre de la famille en 91, ma mère en 93, et finalement, j'ai trouvé que le moment, je crois beaucoup en timing, le moment était venu en 96, donc 7 ans après les événements.
Et c'est comme ça que commence votre livre. Vous êtes dans ce printemps 1996, vous racontez la splendeur du temps et la splendeur du jour, en quelque sorte. Vous arrivez, l'avion se pose sur le tarmac et vous êtes enfin de retour chez vous, après donc
50 ans moins 3 mois
d'exil. Ça a dû être une émotion, c'est presque indicible, ça, sans
voilà,
doute, non ?
C'est ça, on ne peut pas la décrire.
Vous écrivez dans votre ouvrage « Ma femme Margarita et moi tenions à être réunis pour affronter ce jour si important, celui que j'avais décidé d'opérer ce retour en Bulgarie après des années d'attente et d'observation depuis la chute du régime communiste. La perspective de revivre un jour en Bulgarie pouvait être une réalité. Seuls ceux qui ont subi la contrainte de vivre loin de chez eux peuvent comprendre ce sentiment d'attachement à un lieu qui leur est interdit. » Il y a quelque chose quasiment de mystique, on peut dire, dans ce atavique,
oui.
D'infiniment profond, en tout cas. Vous avez été admirablement reçu, en plus. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, ça, c'était vraiment remarquable et émouvant. touchant, enfin.
Oui, j'ai connu un certain nombre de personnes qui étaient à vos côtés à ce moment-là, qui ont vécu hein, ce retour, cette espèce de ferveur. C'était un attachement non seulement, il faut le dire ça, non seulement à votre famille et aux racines de la monarchie bulgare, naturellement, mais aussi à vous-même et à ce que vous représentiez.
Oui, c'est très aimable à vous de le dire, mais moi j'essaie de le voir aussi sous un autre angle, que c'était quelque chose de nouveau qui venait, un espoir, une sorte de bouée de sauvetage, si je peux dire. Et c'est peut-être là aussi où il y a eu un enthousiasme qui, sans vouloir, et presque fatalement, a aussi amené la déception, parce que tout ne s'est pas passé, ou tous les espoirs que les gens s'imaginaient et m'attribuaient. Et là, je dois dire que ça a été très difficile à gérer.
Alors vous êtes un cas unique dans l'histoire, je crois qu'on peut le dire, puisque roi d'un pays, vous en êtes devenu le premier ministre. Avant d'évoquer cette expérience extraordinaire, qu'en a-t-il été de l'idée d'une restauration monarchique? Est-ce qu'il était possible que la couronne, que la monarchie bulgare reprenne vie à ce moment-là? C'est très important d'expliquer dans quelle situation vous étiez.
Au moment du retour, lendemain, on aurait pu imaginer. Mais voyez-vous, c'était déjà 7 ans que les gens avaient accepté une constitution démocratique, s'étaient affirmés comme république. Alors j'ai trouvé de nouveau que c'était, au fond, ça aurait été égoïste ou même pas raisonnable de tâcher de changer après si peu de temps et encore les gens traumatisés par le système précédent.
Est-ce que vous n'avez pas fait preuve d'un peu trop de modestie ou de discrétion dans cette circonstance ?
Je suis trop réaliste. C'est difficile à le dire, mais je crois que ça aurait été une tentative qui aurait eu des effets très négatifs.
Alors vous avez donc exercé la direction du gouvernement. Vous êtes devenu le premier ministre de Bulgarie. Dans quelles circonstances, Sire ?
Après les élections que ce mouvement qu'on avait formé, et évidemment ça a été une telle victoire, parce qu'on a failli de justesse, on a raté la majorité absolue. Et j'ai senti que ça aurait été vraiment pas correct de nommer quelqu'un et de rester à l'arrière, comme oui, dans l'ombre, comme une sorte de gourou ou quelque chose. Et alors, voilà, je me suis dit, il faut servir le pays, c'est l'essentiel. Puis si on sert la République, moi, je ne vois rien, disons, de trahir, entre guillemets, un idéal ou ça. La question est là.
Ça, c'était de 2001 à 2005.
Oui.
Et en 2005, vous vous retirez, donc ?
Non, en 2005, j'ai continué, pas comme Premier ministre, mais mon mouvement était dans la coalition
oui, c'est ça, exactement,
triple.
Oui.
On a continué encore 4 ans, parce que j'avais 5 ministres, dont ministre de Justice, Défense...
Les grands ministères régaliens.
Oui, oui, oui.
Et depuis, quelle est votre position en Bulgarie ?
En 2009, après les élections, je crois que tout le monde était fatigué de me voir circuler pendant 8 ans, et ça arrive dans tous les pays. Et on a été battu de façon, disons, qui est claire. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure façon, c'était de démissionner du parti et de changer, si vous voulez, de rôle, au sens que ne plus être dans la politique directe, mais sans vouloir, à cause de mes origines et de mon autre fonction, je continue à être, jouer un certain rôle qui est différent maintenant.
Pour une bonne partie du peuple bulgare, vous êtes toujours le roi, il faut le dire.
Oui, et peut-être peu à peu plus, au fur et à mesure que le temps du vilain Premier ministre s'estompe. Et voilà.
Il y a encore beaucoup à faire en Bulgarie, évidemment, mais ça, ce n'est plus de l'histoire. Ce serait un entretien de politique et d'actualité. Merci infiniment, Sire. Je suis très heureux que Votre Majesté nous ait accordé ce très bel entretien. Merci beaucoup. On peut retrouver tous vos souvenirs dans cette autobiographie du roi Siméon II de Bulgarie. Et ça s'appelle « Un destin singulier », c'est chez Flammarion.
Et dans un instant sur Europe 1, on vous retrouve, Franck Ferrand, pour notre retour aux origines. Vous répondrez à la question d'Audrey sur l'origine du mot « Amen ».
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Audrey. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Je la cite. Pouvez-vous m'expliquer l'origine du mot Amen ?
En voilà une bonne question. D'où ça vient, cette expression Amen ? Vous savez que chez les Égyptiens, il y avait ce dieu qu'on appelait Amon, si vous voulez, le dieu de Thèbes, une des principales divinités du Panthéon. On ne peut pas pour autant établir une filiation directe avec le terme Amen. On ne peut pas dire que même si les Hébreux ont vécu en Égypte, bien entendu, c'est de là que vient le terme. Chez les Hébreux, le « el » signifie « Dieu », le « me » signifie « le roi » et le « n », le « n », si vous voulez, signifie « fidèle ». « Amen », c'est donc l'acceptation d'un Dieu créateur et roi et en qui on peut avoir confiance. Mais il faut dire qu'il existe assez peu d'occurrences de ce mot « Amen » dans l'Ancien Testament. Il faut le souligner parce que c'est plutôt une affaire du Nouveau Testament, finalement. La racine du mot « Amen » en langue hébraïque a donné les termes de « foi »,« émouna », de « confiance », également l'adverbe « assurément » qui se dit « amna ». Vous voyez, c'est la même racine, bien entendu. Ce mot, il a sans doute été introduit dans les langues occidentales par les théologiens grecs qui ont traduit la Bible, ce qu'on appelle la Septante, une version de la Bible hébraïque en langue grecque. Selon une tradition qui est rapportée dans la lettre d'Aristée, la traduction de la Torah aurait été réalisée par 72 traducteurs à Alexandrie vers 270 avant notre ère. Alors Amen, ensuite, du grec a été traduit en latin, et du latin en toutes sortes de langues, évidemment en français ça veut dire « ainsi soit-il ». Chez les chrétiens, « Amen » marque la conclusion des prières. On retrouve ce terme une centaine de fois dans le Nouveau Testament, dont plus de la moitié d'ailleurs de la bouche même de Jésus. Et puis, il faut le dire, en islam, le mot « Amen » aussi est utilisé. Il se prononce « Amin », il signifie « ô Dieu, exauce ou répond ». Marion Ruggieri est entrée dans ce studio. Bonjour Marion.
Bonjour Franck. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité qu'on aime beaucoup dans cette émission. C'est Marina Carrère d'Encausse, présentatrice mythique de France 5, mais aussi écrivain, puisqu'elle publie Une femme blessée aux éditions Anne Carrière. Nous allons vous en parler. À tout de suite.
Eh bien, merci beaucoup Marion. Et nous nous retrouvons demain, Céline.
Avec grand plaisir, Franck. À demain.